5h moins quart, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On est en plein cœur de l'heure de pointe. Faut-il être patient au moment où on se parle?
Quand même! Sur la capitale, dans les deux directions à la hauteur de Robert Bourassa, c'est vraiment difficile en ce moment. Direction ouest, c'est concentré à la hauteur de Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord, c'est entre Wilfrid Amel et la capitale que ça se passe. Henri IV Nord, à partir de la capitale, il y a un certain ralentissement à prévoir. Dans le coin de Val-Bélair aussi, où l'avenue industrielle. Et dans le coin de Shannon, devant la base militaire, là, quand c'est la route de la Bravo, dans les deux directions, petit ralentissement. L'entrée du pont Pierre-Laporte, direction sud, toujours difficile. Et la 20, direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata.
La circulation, présentée par Chaussures Filion. Trois boutiques à Québec et une à Lévis pour trouver chaussures à son pied dans les créneaux mode, plein air et athlétique. Chaussuresfilion.ca.
Quand on fait une émission de radio, il y a deux conditions qui sont essentielles pour être relativement zen quand on ouvre les micros. La condition numéro un, c'est d'avoir une équipe avec qui tu t'entends bien. Je pense que si vous êtes des habitués de Gravel dans le retour, vous savez que j'aime d'amour les deux demoiselles qui font partie de cette table.
Vrai?
Audrey et Véro, ouais, bon, elles vont faire semblant qu'elles sont pas au courant, évidemment. Puis c'est peut-être pas la meilleure journée pour le dire parce qu'on s'est chamoyé un petit peu tantôt, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la condition numéro un. La condition numéro deux, c'est d'avoir une famille élargie qui est tout autant agréable. Puis quand on parle de famille élargie, en radio, on parle des chroniqueurs, on parle des collaborateurs. Puis la famille qu'on avait déjà et qui a traversé avec nous autres il y a 2 ans et demi, on l'apprécie beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux membres et de nouveaux chroniqueurs qui se sont greffés à cette famille-là, avec qui, très rapidement, on a tissé des liens d'affection et de collaboration. Puis dans cette grande famille-là, ben, vous le savez, il y a Pierre Aude, évidemment, il y a Émilie Duchaloux-Grandmarché, il y a Alex Leblond, parce qu'on le connaît d'une autre vie, puis c'est toujours le fun de jaser de finances avec. Mais quand on veut traiter des sujets un peu plus humains, ben, on a eu la chance de commencer à collaborer avec une psychiatre qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Caroline Gagnon, qui est en studio avec nous autres. Salut Caroline.
Salut Denis.
Et Caroline est avec nous autres aujourd'hui, mais pas nécessairement à titre de psychiatre, c'est plus à titre de maman que tu viens nous jaser aujourd'hui, puis tu vas parler de ta vie personnelle et de cet aspect-là de ta vie personnelle pour la première fois.
Oui.
Tu te sens comment?
C'est ma question d'habitude, ça.
C'est rien, je te charge 250$ et tu ne le sais pas encore à la fin de l'heure.
Je me sens vulnérable,
okay,
présentement, mais ouverte à partager. Je suis rendue là.
Ouais.
Édouard a 16 ans et demi.
Oui.
C'est le temps que je sorte de mon garde-robe.
Édouard, ton fils a 16 ans et demi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a, Édouard?
Édouard présente de l'autisme.
Oui.
Un état assez avancé. Il est non-verbal, donc il ne prononce pas de mots,
okay,
ni de sons. C'est aléatoire. Là, s'il rit, on va entendre un petit peu sa voix. Donc, non-verbal. Il a une déficience également. Il n'est pas autonome pour ses activités de la vie quotidienne. Donc, Édouard, il y a une forme d'autisme qui est assez, on va dire, je vais dire le mot sévère pour imager la situation.
Comment on apprend ça? Est-ce qu'on apprend ça pendant qu'on est enceinte, qu'on va peut-être vivre une situation problématique ou ça vient plus tard, ton expérience à toi?
Mon expérience, je suis en début de trentaine, je tombe enceinte, deuxième enfant, j'avais déjà eu une fille à 25 ans, aucun problème de santé.
Okay.
On nous offre la possibilité de faire des tests trisomie,
oui,
bon, tout ça, là, maintenant. Ça commençait, ces tests-là, à l'époque, là, parce qu'on parle d'une époque, là, 15 ans, c'est long en médecine.
Ouais.
Et j'avais refusé les tests en disant, ben, début trentaine, de toute façon. Et l'autisme ne se détecte pas là.
De toute manière.
De toute manière. Mm-hmm. Et si c'est la trisomie, par exemple, 21, dans mon monde, la trisomie 21, j'accueille cet enfant-là dans ma vie, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'avortement qui va arriver. Puis le papa aussi était du même avis.
C'était une discussion que vous aviez eue au
préalable. Exactement, c'était clair. Donc, on n'a pas fait les tests. Il était médecin et dans la médecine aussi, là,
okay,
le papa d'Édouard. Même si on était dans le domaine médical, pour nous, c'était un enfant, puis on va l'accueillir comme il va être.
Mm-hmm.
Et ça, on est en 2007 à ce moment-là.
Là, Édouard naît, fait,
oui,
partie de votre entourage.
Oui.
Comment on remarque les particularités d'Édouard?
Édouard naît avec tous ses morceaux.
Oui.
Il est ultra joli.
Uh-huh.
Il est charmant parce que c'est un bébé qui est tout doux, que tout le monde veut dans les bras. Donc, je veux dire, au début, tu le sais pas qui est différent.
Mm-hmm.
Tu n'as aucune idée. À 18 mois, c'est le temps des fêtes, je me rappelle de l'événement. Édouard a un cousin du même âge qui s'appelle Grégoire, qui a 3 semaines de différence avec,
okay,
lui. Donc,
on
avait acheté des camions aux garçons de 18 mois. Donc, on donne les camions, on déballe, Mais finalement, Édouard s'amuse avec le papier toute la soirée, pendant que Grégoire fait des chemins avec les camions. Puis... Et là, je vois... Et à ce moment-là, je suis pédopsychiatre, imaginez-vous donc. J'ai porté Édouard en diagnostiquant l'autisme à d'autres enfants. C'est ça, ma réalité. J'étais en pédopsie à l'époque. Donc, au party de Noël, moi, je peux-tu vous dire que j'étais pas dans l'état festif de Noël? Parce à partir de là.
De par ton expertise...
De par mon expertise, j'ai
réalisé...
J'ai vu le jeu, et là, j'ai vu qu'Édouard, OK, on n'était pas là du tout, du tout.
Est-ce que c'est, dans cette situation-là, une chance d'avoir les connaissances nécessaires pour déceler très tôt ces subtilités-là? Parce que j'ai l'impression que pour bien des parents, ce genre de signe-là, ça peut prendre des années, là, peut-être, avant de dire « OK, il y a peut-être un problème ou un questionnement à avoir ».
Oui, il y avait un autre signe, c'est qu'Édouard n'a jamais pointé de sa vie.
OK.
OK. La pointer, c'est communiquer. Un bébé qui pointe quelque chose, là. Je me rappelle, ma fille, à 8 mois, nous pointait un oiseau, un cardinal, un chat. Bon, il fallait toujours dire oui, oui, on l'a vu. Mais Édouard n'a jamais pointé non plus. Donc, cette expertise-là que j'avais de pédopsie, oui, elle m'a aidée, pour répondre à ta question, à un peu voir plus rapidement les signes.
Ouais.
Mais en même temps, c'est plate d'avoir beaucoup de connaissances. Parce qu'on peut se faire beaucoup de scénarios.
Mm-hmm. Souvent, ils vont dire à des parents médecins, c'est pas à vous de poser des diagnostics envers vos enfants parce que vous êtes trop liés par l'émotivité.
Et ce n'est pas moi qui a posé le diagnostic, c'est un pédopsychiatre qui l'a fait là, dans un hôpital de jour pour enfants.
Comment il vivait ses émotions? C'était-tu un enfant qui riait, qui pleurait, qui réagissait à ce qui se passait autour?
Édouard adulte, ben adolescent maintenant,
ouais.
C'est deux mondes. Édouard, avant l'âge de 5 ans, ne dormait pas la nuit.
Du tout?
Il faisait des périodes comme un nouveau-né, une heure à deux.
Ouf.
On se levait aux 2 heures environ, le papa et moi, pendant 5 ans. Ce qui fait qu'on est devenu fatigué.
Bien, je comprends.
Édouard faisait des états de crise. On ne comprenait pas. Édouard n'a pas de langage. Donc, s'il veut manger, on ne le sait pas qu'il a faim.
Mm-hmm.
Il allait devant le frigo. Il attendait devant le frigo longtemps. Il ne parlait pas, il attendait. Des fois, nous, on n'était pas toujours dans la cuisine.
Fait que tu ne le vois pas, tu ne sais pas ce qu'il est en train de
Exactement.
Faire. Tu ne vois pas le signal.
On arrivait dans l'après-midi. Oh mon Dieu, mais il doit avoir faim. Il doit avoir faim. On lui donnait quelque chose, il mangeait. Ah, il avait faim. Et c'est erreur. C'était comme ça qu'on a travaillé, mais il était en crise énormément petit. C'était difficile pour nous de comprendre. Marcher, main dans la main, n'a jamais voulu mettre sa main dans nos mains pour aller marcher. Jusqu'à l'âge de 5 ans, là, la vie était difficile. C'est un peu compliqué, le fonctionnement d'Édouard.
Le spectre de l'autisme, de la façon que je le comprends, c'est immense.
Oui, exact.
Il y a des gens qui nous écoutent peut-être, qui ont 30, qui ont 40, qui ont 50 ans, qui sont...
Oui.
Sur le spectre de l'autisme, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sauront peut-être pas jamais. Comment on mesure ça et à quel degré se retrouve Édouard dans cette échelle-là?
Oui, bien, dans le fond, on a des traits.
Oui.
On a des échelles qui vont nous préciser l'intensité. Donc, si j'ai 8 sur 10 dans les critères, bien là, j'ai des chances d'être Asperger ou on va dire TSA maintenant pour tous les troubles du spectre.
OK.
Donc, on peut le faire chez l'adulte, on peut le faire chez l'enfant, chez l'adolescent. Donc, ça, c'est possible de faire ça pour un adulte aujourd'hui, mais il y a de longues listes d'attente. En neuropsy, par exemple, on pourrait aller chercher une expertise, là, un adulte qui voudrait savoir est-ce que je le suis ou pas autiste. Bon, ça se peut que quelqu'un ait besoin de faire cette démarche-là. Édouard, lui, a coté toujours très, très élevé. Il a coté à la déficience intellectuelle.
Okay.
Il n'est pas propre au niveau de la propreté. Il n'a pas acquis la propreté encore. Peut-être qu'il ne l'aura pas plus tard. Donc, quand je dis qu'il y a un besoin, il n'y a pas d'autonomie, on doit être avec lui en tout temps. On ne peut pas le laisser seul. C'est vraiment un niveau de fonctionnement.
Il y a toujours besoin d'une assistance.
Exactement, exactement. Comme un enfant, peut-être de 2 ans et demi, 3 ans, aurait besoin. Sans dire qu'il a cet âge-là mentalement, parce qu'il a beaucoup de force aussi.
Mm-hmm.
Mais au niveau de la surveillance, c'est comme un petit. Là.
Okay.
Comment tu réagis comme maman quand tu apprends officiellement le diagnostic? Là, c'est sûr que tu l'as sûrement vu venir avec l'expertise que tu avais, mais c'est quoi la réaction à ce moment-là de savoir ce qui s'en vient pour vous comme famille?
C'est la catastrophe. Je te dirais. Ton univers s'écroule. L'effondrement, tu sais, le mot effondrement, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant parce que moi, je suis une petite fille qui arrive du Lac-Saint-Jean, qui étudie en médecine, qui rencontre quelqu'un en médecine.
La belle vie, là.
Je ne l'ai pas eu, tu sais, c'est difficile, la vie, là. Tu sais, j'ai travaillé fort dans mes études, mais je veux dire, c'est le jour où j'apprends qu'il est différent, mais à ce point, et que le médecin nous dit qu'il ne pourra pas être autonome, il va falloir le placer dans un lieu en dehors de la maison, il va falloir planifier ça dans sa vie, ce jour-là.
C'est pour ça que tu espères pour ton enfant, là?
Pas du tout. Puis c'est comme si ce jour-là, je vous dirais, il y a avant puis après ce jour-là. Il y a comme une cassure pour moi. Donc, beaucoup de tristesse, sentiment d'injustice. J'avais pensé que vu que je traitais des enfants en pédopsie, les miens allaient être protégés. Comme une espèce de pensée magique. Là. Ouais. Mais j'ai réalisé ça après. Uh-huh. Bien, oui, ça se peut que j'en ai un enfant malade, bien sûr que oui. Là.
J'imagine que quand un diagnostic tombe comme celui-là, le niveau d'acceptation et le temps d'acceptation ne doit pas être le même chez toutes les personnes visées. Vous êtes trois.
Oui.
Il y a une grande sœur.
Il y a une grande sœur.
Puis il y a deux adultes. Comment vous avez vécu ça en tant que famille?
Et il y avait aussi ces deux grands frères qui sont mes beaux-fils.
OK.
En plus, qui étaient ados de 13 et 16 ans à ce moment-là.
Qui étaient dans la bulle familiale. Ouais.
Lorsqu'on l'a su, les ados nous ont dit, ben nous autres, on va vous aider avec le sommeil. Parce qu'Edouard ne dormait pas, puis nous, on ne dormait pas non plus.
Mon Dieu.
Moi, des ados de 13 et 16 ans qui me disent ça, je fais comme... T'es pas supposé m'envoyer promener.
Ouais, c'est ça.
Mais je vais vous dire, il se passe quelque chose. Quand il y a un enfant malade, surtout que c'est le dernier de la famille, toutes les forces
convergent
vers lui. Mm. Et même ma fille, elle s'est jamais plainte d'Edouard. Edouard, il criait la nuit, il faisait des crises. Non, des fois, c'était sans arrêt pendant 24 heures, une fin de semaine.
Puis on pourrait comprendre que des enfants plus jeunes acceptent moins ou comprennent moins ce qui se passe.
Moi, comme pédopsie, je me disais, ils vont m'arriver, hey, on est à bout, on n'en peut plus. T'sais. Ce petit frère-là, pourquoi il est arrivé comme ça dans notre vie? Jamais. C'est jamais arrivé. C'est les enfants ont un amour qui dépasse... Même ma fille me disait, moi, elle dit, maman, Edouard, c'est Edouard. Edouard, il est comme il est. J'ai pas été enceinte de lui avec des attentes, là, comme toi. Toi, t'as vécu ça. Mais je savais quand j'étais enceinte, c'est bizarre, là. Je me disais, Edouard, il va... Ben, je savais pas que c'est un garçon ou une fille, mais je me disais, le bébé, il me semble qu'il va dépasser notre vie actuelle. Mais je savais pas trop comment, là. Ça va-tu être un ingénieur, je sais pas quoi, un premier ministre, mais dans le fond, je réalise aujourd'hui avec comment il est, Edouard, puis je prends le micro pour lui, là. Dans le fond, il ne parle pas, puis j'ai le goût de parler à sa place. Il est au-delà de ça, de tout le paraître, de toute la superficialité. Il m'amène au-delà de cet univers que j'avais avant de performance.
Comment?
La simplicité, finalement. Ouais.
La simplicité totale. On fait des casse-têtes, on boit un verre de jus, et il y a un rayon de soleil qui arrive, il touche le soleil. Il y a du vent dans l'auto parce qu'on baisse les fenêtres. Il met ses deux mains, il ferme les yeux pour sentir le vent. C'est ça, Edouard, c'est des sensations dans le moment présent.
Comment on crée un canal de communication avec un enfant qui est très élevé sur le spectre de l'autisme? Mm-hmm. Puis comment on va chercher sa gratification de parent dans une certaine mesure?
Ouais.
Tu sais, on va... c'est rendu qu'ils font des cérémonies de diplôme à la garderie. Là,
oui,
puis
nous autres,
on va chercher notre gratification de parent dans des affaires de même, puis ainsi de suite.
Ce qu'on fait comme parents, on célèbre chaque petite victoire.
Ouais.
Donc, chaque petit... la première fois qu'il a plié des débarbouillettes avec moi, puis il plie très bien d'ailleurs, la première fois qu'il l'a fait, puis qu'il l'a compris, j'étais fière de lui cette journée-là. Mm-hmm. Alors que ma fille arrive avec un prix, je ne sais pas, implication sociale de l'année à son école secondaire, Edouard, il a plié une débarbouillette.
Ouais.
Donc, on s'adapte au niveau de son progrès à lui. Mais on célèbre chaque petite victoire, je te dirais.
Est-ce que c'est dur d'accepter le fait que il y a beaucoup de possibilités et de portes qui se ferment? L'idée d'avoir une communication normale, l'idée d'avoir un médicament à un moment donné qui va faire en sorte que son état ou sa condition va s'améliorer, ça doit être terriblement dur à accepter pour un parent.
Oui, puis non. Je vais te donner l'image que je donne à mes amis. Je suis au festival d'été sur la scène. C'est seulement des petits Edouard qui sont devant moi. Je prends le mien. Mm-hmm. C'est lui que je veux.
Mm-hmm.
Parce que c'est avec Edouard que j'ai cheminé comme femme, comme médecin, comme psychiatre, comme dans plein de domaines de ma vie. Donc, je peux pas... Il n'existe pas autrement pour moi.
Ouais.
C'est comme ça qu'il est. Donc, oui, c'est difficile. Oui, quand le bal des finissants arrive, justement, cette année, il sera à son bal. Là, il y a 16 ans, il y aurait le bal. Donc là, je me dis, il y aurait son bal. Oui, mais il va en avoir un à 21 ans. Un bal adapté à sa situation. Mais... C'est sûr que le deuil ne sera jamais réglé. Puis ça, c'est pour toute forme de deuil. On ne règle pas un deuil, on ne fait pas une coche, là. Ah, c'est réglé, check. Ce qu'on fait, c'est on vit avec, on vit avec les émotions qui viennent, mais on a des belles victoires, puis on a des rayons de lumière dans tout ça. C'est pas juste de l'ombre. Après le diagnostic, il y a une vie. Quand j'étais pédopsychiatre, je donnais le diagnostic, je revoyais plus les patients, je savais pas qu'est-ce qui allait arriver avec eux. Mais là, maintenant, je me dis, il va y avoir de l'aide, des anges gardiens, il y a des ressources, des pictogrammes pour communiquer. Là, tu parlais de la communication. Oui, bon, oui. Ça peut être utiliser une image. Édouard, on lui montre une photo. Si on va, par exemple, dans une chaîne alimentaire connue avec un clown et on lui montre l'arche dorée, bien, il est prêt, là, ouais. Il s'habille.
Il sait à quoi s'attendre.
Non, puis je ne changeais pas de resto. Là, donc, on se communique avec des images.
Est-ce que Édouard est capable de gestes d'affection?
Oui. On est chanceux parce que les autistes souvent n'aiment pas ça. Mm-hmm.
Ouais.
Mais Édouard, on l'a beaucoup câliné petit. Je ne sais pas si ça rapporte. Puis dans sa ressource actuelle, il y a beaucoup d'amour et d'affection qu'il reçoit. Donc, on est capable de... Il va faire son câlin à sa façon. Il va se pencher, tu sais, il va attendre que ça passe. Des fois, il attend. Je viens de faire un câlin, il ne bouge
plus
pas.
Plus pour te faire une faveur qu'autre chose.
Exact, mais il a enregistré que quand il fait ce geste, ça me fait du bien, ça me fait rire. Mmh. Ou bon. Donc, il est content. Il est très, je vous dirais, de base, il est content, Édouard. Il se réveille puis il a le sourire aux lèvres. Okay.
Ton garçon est placé, tu nous l'as dit tantôt.
Oui.
Comment t'en viens à cette décision-là? En fait, premièrement, est-ce que c'est une décision ou automatiquement...
T'as comme pas le choix.
Est-ce qu'on se bat contre ce constat-là?
Une travailleuse sociale, en fait, nous avait dit, là, on va être rendu à placer Édouard. Il y a un niveau de comportement à la maison qu'on ne peut pas gérer.
C'était à quel âge?
5 ans.
5 ans? C'est tôt. Ça doit être dur en tabarnouche.
C'est dur.
Ça doit être dur à accepter, puis ça doit être dur. Ça doit être perçu comme un constat d'échec, peut-être, au départ?
À 5 ans, les parents, ils font la boîte à lunch pour la maternelle. Ouais. Moi, j'ai fait la valise pour la vie. J'ai dit à mon enfant au revoir. T'sais. Je le vois chaque semaine. Il a évolué très bien.
Ouais.
Mais ce jour-là, c'est sûr que... Et quand la travailleuse sociale nous dit ça, c'est parce qu'elle a des éléments. Tu sais, on a une vie de famille, nous. Je veux dire, on ne peut pas offrir une stimulation, une routine pour lui qui est très, très rigide. C'est impossible à la maison avec l'état d'autisme qu'il présentait.
Parce que tu veux encore, tu parlais de ses petites victoires tantôt.
Oui.
Tu sais, même si tu as tous les outils professionnels pour le faire,
oui.
Tu n'as pas nécessairement le temps pour être capable de l'amener à un potentiel un peu plus haut que...
Exactement. C'est comme si je te disais, je suis neurochirurgienne puis j'ai un cancer cérébral.
Tu ne seras pas ça toi-même, là.
Je vais avoir besoin d'un neurochirurgien, j'aurai besoin d'une assistante, j'aurai besoin d'aide. C'est le même principe. Fait que le jour où on nous dit que ça serait mieux qu'il vive ailleurs pour lui-même, parce que si on attend à 18 ans pour le placer, avec toutes ses rigidités, parce qu'il y a beaucoup de rigidité, Édouard, des obsessions, des compulsions, bon, de l'anxiété, etc., ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Puis l'agressivité, bien, elle va se transformer là, en violence. Puis ça, on ne voulait pas ça, c'est ça pour nos autres enfants aussi.
Hey, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On est avec Caroline Gagnon, qui est psychiatre, que vous entendez de temps à autre dans le retour. Mais on fait quelque chose de différent aujourd'hui parce qu'elle se sentait prête à partager ça avec nous autres. C'est la maman qui nous parle aujourd'hui. Puis elle nous parle de son grand Édouard de 16 ans qui est atteint du spectre de l'autisme à un niveau très élevé. À partir du moment où Édouard est placé à un jeune âge, est-ce que on vit... un sentiment ou un certain sentiment de libération et est-ce qu'on se sent coupable sentir peut-être un certain « Ouf, OK, il y a une étape de franchi. »
Comment on sait où on s'en va.
Ouais.
Enfin, on a de l'aide. On n'est pas seul. Ça, c'est merveilleux. Le soulagement, on le ressent. La culpabilité, je la ressens actuellement, là.
Encore?
Ça fait 11 ans.
Ah oui? Oui.
Puis comment je gère ça? C'est que moi, tous les dimanches, je passe la journée avec Édouard. Le dimanche, ne me cherchez pas. Vous pouvez venir, mais je vais être avec, Édouard. Je peux faire de la radio avec, il va être tranquille à côté de moi.
Uh-huh.
Mais pour négocier ma propre culpabilité de mère, qui ne devrait pas exister parce qu'on me dit souvent qu'il a besoin de soins, ces soins-là, il les a
dans
une magnifique ressource, où il est vraiment... Il est tombé sur une ressource merveilleuse. Donc, je le vois évoluer dans cette ressource-là vraiment bien. Mais moi, mon pacte avec moi-même, c'est si je le vois une fois dans la semaine, une journée de qualité avec lui, puis c'est une journée dans le silence. C'est une journée pour moi où je suis très connectée. Moi, que vous connaissez très verbomotrice ou à peine, ben avec Édouard, ça m'amène comme ailleurs. complètement d'être dans le moment, d'être avec lui, les câlins, on se fait à manger, sa sœur vient, bon, on a de la visite, on fait des trucs, mais de plus en plus, en vieillissant, il est de plus en plus calme. Donc, les états de crise, c'est terminé. Donc, c'est des partages de moments de qualité. Et il vide le lave-vaisselle.
Oh!
C'est une autre victoire. Oh.
Ça, à 16 ans, essayez de battre ça.
Ouais, il y a très peu de jeunes de 16 ans, peu importe le résultat qui vide des lave-vaisselles.
Il a pris de l'avance, là.
Vraiment. Mais on rit parce qu'il adore les tâches domestiques. Il comprend quoi faire, donc il s'implique beaucoup quand on fait des tâches.
Il y a des gens qui réagissent. Je suis en train de regarder sur le Twitch et les textos. Puis ouais. C'est peut-être la réaction de bien du monde dans des chars qui est en train de raconter ton histoire. Dit tabarnouche, ça prend du courage. Moi, je ne serais pas capable. Qu'est-ce que tu dis à ces parents-là qui disent « Hey, moi j'ai pas vécu cette situation-là, mais si je m'étais retrouvé dans la peau de Caro, j'aurais pas été capable de passer à travers. »
Quand j'étais petite, mon père m'avait raconté une histoire avec un prince, là, puis il y avait deux femmes qui disaient qu'elle était la mère, puis il allait le couper en deux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Salomon, je pense.
Oui, c'est dans la Bible, ça.
Bon, en affaire
d'Ancien de la Bible. Testament, ouais,
bon, ça doit être cette référence-là. Puis mon père m'avait raconté que... il m'écoute peut-être, mon père, au Lac-Saint-Jean, d'ailleurs, présentement. Allô, papa, maman. Il m'avait raconté que le prince voulait diviser en deux l'enfant parce que les deux mères disaient ben c'est notre fils.
Mm-hmm. Ouais.
Donc une des deux femmes a dit c'est beau, je vous le laisse, mais c'est elle la mère. Mm-hmm. Parce qu'elle ce qu'elle voulait, c'est que son fils
l'enfant
ne soit
vive.
Pas blessé.
Ouais.
Ben ça me demande plus d'amour d'Edouard de le laisser à quelqu'un d'autre que de le garder pour moi. Mm-hmm. Puis ça, j'ai compris ça assez vite dans le placement, ça demande plus d'amour le dimanche soir. J'ai toujours un pincement. Avant, tout le monde en parle, mettons. Là. Mm-hmm. On a fait une belle journée, c'était le fun. Mm-hmm. Puis là, j'ai une rêverie de « Ah, avec moi, Edouard. » Mais avec moi, Edouard, ça, c'est pas sa vie. Sa vie, ça n'aurait pas rapport, tu sais. Je pourrais pas faire coordonner tout ça. Sa vie est ailleurs maintenant, puis il est heureux. Mais j'ai un pincement qui dit « Ah, je passe pas ma semaine avec mon enfant.
Ouais. »
C'est sûr que je l'ai, mais comment dire? Ça fait partie de ma réalité. Mais je suis tellement bien appuyée dans le reste. J'ai tellement de l'aide au niveau de son soutien. L'école l'envole, sont merveilleux avec lui. Mm-hmm. Il va à la même école depuis l'âge de 4 ans.
Des ressources qui existent maintenant, qui vraisemblablement n'existaient pas il y a une trentaine ou une
Exactement.
Quarantaine d'années.
Hein? Non. À l'âge de nos parents, Edouard, il aurait été sur une ferme. Il n'aurait pas été à l'école. Le naïf
ça
du
le
village.
Spécial, là. Mm-hmm. Ouais, le leticoune du temps d'une paix.
Lui, là, qui est bizarre, ouais. Là, ben c'est sûr. Que ça aurait été ça, sa vie. Tandis que là aussi, on a des ressources. Mais pourquoi on a des ressources pour Edouard? C'est parce qu'Edouard, il est atteint de façon sévère. Ce qui est difficile actuellement, c'est pour les gens qui ont des troubles du spectre, mais qui sont capables de fonctionner. Ils ont des besoins, mais pas criants. Et ça, c'est plus difficile, je crois, d'aller chercher de l'aide pour eux.
Tu parles d'aller chercher de l'aide. Moi, c'est toujours des questions que je me suis posées. Tu sais, qui fait la cuisine à un chef cuisinier? Qui coupe les cheveux à un coiffeur? Mm-hmm. Qui aide une psychiatre dans une situation comme celle-là? Et c'est-tu plus dur d'aller chercher de l'aide pour quelqu'un dont la job, c'est d'aider les gens? Est-ce qu'il y a un peu d'orgueil mal placé qui embarque? Ouais. Tu me fais signe que oui.
Je te fais signe que tout oui.
Ouais.
De la honte. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais au début, j'avais honte. D'aller chercher de l'aide. Moi, je pratiquais à l'Hôtel Dieu de Lévis, mais on habitait sur la Rive-Nord, donc c'est les services de la Rive-Nord, ce qui faisait que je n'étais pas avec mes collègues proches. Mais c'est quand même toutes des collègues à moi, mais au moins, je n'étais pas dans mon hôpital pour les services d'Édouard. Puis j'avais comme honte de rencontrer des gens au début, puis je me disais, tu sais, ils vont me demander, mais qu'est-ce qu'il y a ton petit garçon? Parce qu'à 2 ans, ça paraissait pas trop.
Mm-hmm.
Tu sais, tu le mets dans une poussette de parapluie, mm-hmm. puis bon, tu lui donnes une pomme, c'était mon truc. Une pomme.
OK.
Édouard, il mangeait une pomme. Pendant qu'il mange sa pomme, j'ai le temps de faire des commissions.
Ça avait l'air normal.
Tu comprends-tu?
Ouais, ouais,
j'ai
ouais.
le temps de régler ça, puis je me fais pas dire « Ah, il est bizarre, votre enfant. Il... » Non, ça me tentait pas.
Mm.
Alors, la honte était là. L'orgueil mal placé aussi. Sauf qu'à un moment donné, tu pognes le téléphone, puis là, tu dis « J'ai besoin. »
Ouais.
Puis là, ton collègue, il fait « Ah, elle a jamais besoin. » Fait que j'imagine que
ça
là,
doit être
c'est
important.
La vraie
affaire. Ouais.
Là, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, l'aide arrive. Mais, tu sais, il est arrivé une éducatrice une fois à la maison. Elle était merveilleuse. Je ne suis pas une éducatrice.
Mm-hmm.
Je ne connais pas c'est quoi les services en éducation spécialisée. J'ai tellement appris avec elle à m'occuper d'Edouard le temps qu'il était chez nous. Et même encore aujourd'hui, j'applique qu'est-ce qu'elle m'a enseigné, de rester avec lui tranquille, calme, de ne pas chercher à le stimuler tout le temps. Donc, j'ai eu de l'aide. Plein d'anges sont passés dans notre vie. Et ces gens-là qui sont là sont tellement précieux. J'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Parce que pour un pédopsychiatre, c'est facile de donner un diagnostic, ça dure 2 heures dans le bureau. Mm-hmm. Un éducateur spécialisé, il est là 8 heures par jour avec l'enfant, tu sais.
Tu as parlé d'une situation qui est difficile pour bien des parents, c'est que les services en neuropsychologie, entre autres, c'est comme les services du système de santé, c'est terriblement contingenté, c'est dur d'avoir des rendez-vous, à moins d'être dans les cas les plus importants. Il y a bien des gens qui demeurent avec un manque de connaissances et un manque de réponses à leurs questions à ce niveau-là aussi.
Oui, puis ce qui me fait de la peine là-dedans, c'est qu'un 2 ans d'attente pour un enfant qui a 2 ans, Ça veut dire qu'on arrive à 4 ans. Il reste seulement 1 an avant l'école pour pouvoir le stimuler en orthophonie, en physio. Tu sais, il y a plein de choses, ergothérapie qu'on peut faire avec les TSA plus légers.
Oui.
Donc, la liste d'attente est cruciale. C'est fou. Moi, si j'attends 2 ans pour une problématique, une petite chirurgie, c'est pas bien grave. Mais si j'ai 2 ans, puis j'ai 3 ans, puis j'ai tout mon développement à définir, l'aide est vraiment là, importante. Ça fait toute une différence. Puis à chaque fois, j'ai le cœur qui saigne là, quand un parent me dit « il faut que j'attende 2 ans en orthophonie ». Puis là, je me dis « il va être rendu à l'école ».
Ouais.
C'est dur, là, d'arriver à l'école, pas de langage, pas avec un langage de base, là. Donc, c'est sûr que dans le système actuellement, on a des lacunes là, de ce côté-là. Tu sais, autant on a des belles choses qui se passent. Quand on est pris en charge, un coup, la prise en charge est débutée, ça va bien. Mais c'est d'être pris en charge. Tu sais, c'est comme à l'urgence. Mmh. Un coup que tu es pris en charge après.
Quand tu es dans le système, ça va.
Quand tu as ta civière, puis ton monitoring, puis après, ils savent que tu fais un infarctus, ça va bien. Mais quand tu es assis, tu as mal au ventre dans la salle d'attente, c'est long. C'est difficile. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans notre système présentement.
Qu'est-ce que cette situation-là t'a amené de positif au fil des années?
Regarde, Denis, il y avait une Caroline avant, tu ne l'as pas connue.
Non.
OK? Je ne me serais jamais permis de faire de la radio, mon rêve, radio-télé. Je voulais pas être médecin, moi, je voulais faire de la radio quand j'étais petite. Puis mes parents te diraient, mon Dieu, elle a enregistré tellement d'émissions. On a des tapes chez nous de ça. Mais je veux dire...
Je suis content que tu fasses quelque chose de plus important que ça, by the way.
Ben là, j'ai mixé les deux. L'orienteur au cégep d'Alma m'avait dit, ben fais médecine, puis après, si tu veux faire des médias, t'en feras. Puis là, ben ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que on a juste j'ai l'urgence de vivre ma vie à ma façon. Je pense qu'Edouard, il m'amène le fait qu'on a le droit d'être complètement différent. J'ai d'ailleurs mon chandail de Véro et Louis,
différent comme toi. Ben comme toi.
Oui, magnifique. Ben oui.
Donc, on a le droit d'être complètement imparfait, différent. C'est correct. Mm-hmm. Edouard, il m'amène juste à être au présent. Puis peu importe comment je suis, il va m'aimer inconditionnellement. Puis moi, la même chose, finalement. Donc, ce que ça m'amène, ça se dit pas en mots. Tu sais, c'est une nouvelle vie. J'aime vivre en ville. J'ai quitté la banlieue, je suis arrivée en ville. J'aime écouter de la musique un petit peu spéciale. J'écoute ma musique. Tu sais, comprenez-vous, avant, je ne me serais pas permis de sortir du carcan.
Tu te serais définie par d'autres points.
C'est la mère médecin qui a des enfants. Puis là, probablement qu'Edouard aurait joué au soccer ou il serait en train de gamer présentement. Puis là, je ne saurais pas comment gérer ça parce que là, je ne sais pas comment encadrer tout ça. Dans le fond, j'ai réalisé que les années, j'ai fait la paix avec tout ça en me disant, j'ai l'enfant qui va avec qui je suis, puis c'est parfait.
Ouais.
Tout est bien correct.
Ça a forcé des changements chez toi, mais tu as décidé d'embrasser ces
changements-là. Juste aller en clinique privée, ouvrir ma clinique, sortir du milieu, je ne l'aurais pas fait avant. Donc, je voulais le faire en fin de carrière, tu sais, pour le fun, je vais m'ouvrir un bureau à la fin de ma carrière. Je l'ai fait maintenant.
Il t'a un peu forcé la main, mais à quelque part, ça t'a comme obligé à sortir de ta zone de confort dans bien des sphères de ta vie, tu sais.
La première fois qu'il a fait une crise en public, Chocolat Favori, c'était pas facile. Il y avait des gens, des yeux.
Ouais.
Puis, tu sais, le monde de région, on ne veut pas déranger dans les lieux publics. Puis là, c'est-tu votre enfant? Parce qu'on ne dirait pas. Oh. Une dame qui m'a dit ça. J'ai dit oui, il est autiste non-verbal. C'est difficile de communiquer avec lui présentement. Là, après cet état de crise-là, tu sais, le sentiment que tu as, c'est ouf. OK, j'ai le droit.
J'ai mis des mots, là.
Mais je dérange pas le monde. Uh-huh. J'ai un enfant différent, puis... il est-tu pareil à Charles, l'enfant de Charles Lafortune? Parce que ça nous a aidé quand
même. Ah, mon
Dieu,
oui.
Ça, Charles et Sophie,
ça a démocratisé peut-être la perception de bien des gens.
Ça l'a ouvert un discours, ça l'a ouvert quelque chose. Mais il ne faut pas, tu sais, tous les enfants ne sont pas pareils. Mm-hmm. Il y a pas une, on n'est pas, nous, on est quatre personnes, différentes. Bien, les autistes sont tous différents.
C'est la même chose, ouais.
C'est ça, ils ont tous leur style, leur personnalité, tu sais.
Est-ce que ton garçon a fait de toi une meilleure psychiatre au bout du compte?
C'est dur de dire que je suis meilleure, là. Il y a comme une humilité qui est là. Mais une femme plus humaine, plus à l'écoute.
De vivre une situation, ouais. Ça doit rendre plus sensible à des situations similaires.
Quand les parents me disent « on n'a pas eu le temps de faire votre truc que vous vouliez qu'on fasse cette semaine, on n'a pas eu le temps de le faire. »
Tu le comprends?
Je comprends. Mm. Maintenant, je vais faire « ah, c'est correct, pas de problème. »
J'aimerais ça que tu répondes à une maman de quatre enfants qui vient nous texter, puis oui. Moi, ça me fait de la peine de lire des choses comme ça, mais je me dis, s'il y a une personne qui peut répondre à une affirmation comme ça, c'est probablement Caro.
Oui.
Dis, maman de quatre enfants, deux TSA, on doit faire le deuil de l'enfant parfait parce que tout le monde veut ses ou son enfant parfait.
Et voilà.
C'est dur, ça.
C'est dur, mais c'est ce qu'il faut.
On accompagne quelqu'un qui vit une situation comme ça, comment? Puis il doit en avoir des moments de découragement où tu as besoin d'aide. Là.
On écoute. Quand j'ai su pour le diagnostic, je suis arrivée à la maison, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mes parents.
Hein?
J'ai dit, pouvez-vous venir tout de suite? Ma mère a dit, nos valises sont prêtes, on attendait que tu sois prête.
Oh.
2 heures après, câlin, maman chez moi, fait de la soupe. C'est ça qu'il faut.
Ça aide d'avoir de l'entourage.
Des proches,
hein, ouais.
Qui vous aiment, uh-huh. Parlez-en. Puis les gens, ils aiment ça en entendre parler souvent quand on vit une réalité comme ça. Bien, choisissez les gens qui sont ouverts à vous écouter. Mais parlez-en à l'infini, s'il le faut. Plus vous allez en parler, plus vous allez cheminer. Puis le deuil de l'enfant parfait, c'est tout à fait ça, le défi. Il y avait un Édouard qui existait avant, je ne le savais pas, mais je l'avais créé dans ma tête. Mm-hmm. Sa vie, j'avais tout, sa blonde, son appart, tu sais, j'avais tout imaginé.
Mais tu veux le chemin facile pour ton enfant dans
c'est
la vie,
ça,
là, tu veux que les épreuves, puis tu veux qu'il
exactement.
Réussisse, puis qu'il s'accomplisse.
Exactement, puis Édouard, si ça se trouve, c'est le plus heureux de mes quatre enfants.
Ben oui.
Parce que lui, il se lève, puis c'est correct. Il n'a pas ce projet-là, lui.
Lui, il l'accepte.
C'est ça, donc ça. L'enfant parfait, lui, c'est pas que c'était ça que j'avais pensé quand j'étais enceinte de lui. Lui, il est juste lui-même, là. C'est ça qui m'amène, dans le fond. La peine, c'est la nôtre. C'est celle de parents, tu sais. Puis c'est ça, j'en reparle, je deviens émotive parce que je me rappelle la peine que j'avais. C'était l'épreuve de ma vie dans ma tête. Je me disais, c'est l'épreuve d'une vie, je vais en avoir pour toute ma vie à devoir gérer cet enfant-là qui est différent. Mais à un moment donné, tu dis, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de chimiothérapie. Je sais que ton garçon, il y a eu une chirurgie cardiaque.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose, un bébé de 6 mois qui se fait opérer.
Mm-hmm.
Je veux dire... Bon, moi, il est sur ses pattes, là. Il est capable de faire des trucs. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu marchandes avec la situation.
Oui.
Puis, tu réalises, au bout du compte, que dans l'imperfection, c'est ça, la vie. C'est bien plus ça, la vie. C'est être imparfait. C'est bafouiller. C'est pas savoir quoi dire. Mais il y a une mère... C'est drôle, Audrey, tu poses ta question pour l'aspect de mon travail. Il y a une mère, elle m'a dit... Après, quand je suis revenue, après Édouard, j'ai pris 2 mois de pause. Puis quand je suis revenue, elle dit, je ne sais pas ce que vous avez, Dr Gagnon, mais depuis que vous êtes revenue de congé, vous n'êtes pas comme avant.
Hmm.
Fait que j'ai fait, OK, c'est quoi qui se passe? Elle dit, je ne sais pas, vous nous écoutez, il y a quelque chose. Elle ne sait pas, là. Peut-être qu'elle va me deviner. Elle écoute aujourd'hui, là, mais ça fait longtemps de ça, mais c'était qu'elle sentait que j'étais plus, probablement, j'ai imaginé que j'étais plus humaine dans mon écoute.
Bien, en fait,
moins théorique.
Bien, c'est ça, t'as, platement parlant, vécu de la pratique.
Bien, c'est ça, vraiment. Fait que, oui, la théorie, les critères, oui, quoi dire, mais...
Mais là, c'est la réalité, c'est la vraie vie.
C'est comment je te le dis, tu sais, comment je le dis, puis comment j'en parle. Puis j'en ai pas parlé parce que j'étais pédopsychiatre et je voulais pas heurter les parents qui avaient un diagnostic de dire, bien, moi aussi, j'en ai un, le mien est pire que toi, tu sais. Ça me tentait pas d'aller là, mais là, avec les années, bien, on chemine.
Il y a une phrase... qui me revient beaucoup depuis que j'ai des enfants. Puis c'était une phrase que j'entendais souvent dans mon entourage. Puis des fois, c'était mes parents qui le disaient. « Ah, oh, tu sais, Denis, quand on est parent pour la vie. » Je pense dans une situation comme la tienne puis comme celle de bien des parents, c'est une phrase qui prend tout son sens.
Fait.
Et tu sais, on dit on prend une décision par rapport à ça, mais je pense que c'est pas le cas. On est parent ou on l'est pas. Puis quand on est parent, Oui. On est là pour nos enfants, quoi qu'il arrive. Puis des fois, on le voit dans des circonstances qui sont bien particulières, puis on manque d'empathie des fois. Tu sais, ah, il est au palais de justice, il est accusé de telle affaire, puis sa mère est là, puis elle supporte malgré
oui.
tout. Ben, c'est ça, ça, être parent. Dans toutes les circonstances.
Oui, moi, je dis souvent, parce que le papa d'Édouard et moi, on est séparés, mais on est restés super bons amis. Puis je me suis toujours dit, ben, on est parents d'un petit garçon pour la vie.
Mm-hmm.
Tu sais, Édouard va avoir 30 ans, je vais aller le visiter mm-hmm. encore dans sa ressource. Je veux dire, on va aller s'acheter des bonbons sur Cartier, on a nos spots, nos adresses, puis on va continuer de faire ça. Fait que, oui, parents pour la vie, tellement. Puis être parent, c'est une aventure.
Ouais.
C'est comme aller en voyage. T'sais, tu pars avec ton sac à dos, ça se peut que tu te foules le pied, puis oups, faut que tu te trouves un plan B. C'est ça, avoir un enfant aussi. T'sais.
Est-ce que tu as peur pour quand tu ne seras plus là? Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont parents justement mm-hmm. d'enfants peut-être différents, qui ont peur de ça, de l'abandon peut-être de leur
J'ai
enfant.
Eu peur de ça beaucoup les premières années. Maintenant qu'il y a une ressource qui a été stable dans sa vie et que ses frères et sœurs sont tous adultes, message à leurs frères et sœurs. c'est pas que je veux que les enfants prennent charge d'Édouard, mais je sais qu'il va y avoir des gens dans sa vie, qu'il y a déjà des gens s'il m'arrivait quelque chose. Donc, mais cette peur-là, en effet, avant d'avoir de l'aide, on partait en voyage, puis je me disais, je prends-tu le même avion que le papa? Parce que là, s'il nous arrive quelque chose, là, il y avait juste nous à l'époque, là, avant qu'il y ait 5 ans. Mmh. Donc, oui, cette peur-là était là avant. Donc là, ça s'est calmé. Tu vois, il y a des peurs qui se sont calmées. Il y a d'autres peurs qui apparaissent. C'est comme... Tu sais, les peurs, on les maîtrise pas. Elles arrivent, hein? Elles apparaissent à nous, tu sais. Fait que je les vois arriver. J'essaie de l'apprivoiser puis de voir qu'est-ce que je peux faire. Je peux-tu faire quelque chose? Si je peux rien faire, ben je lâche prise.
Caro, j'ai le goût de finir avec une réflexion de Christian qui vient de nous écrire par texto.
Oui.
Je trouve que ça boucle bien la boucle. Il dit « Je suis pas d'accord avec la plupart des parents qui disent qu'ils seraient pas capables de gérer un enfant avec un handicap. L'amour et la détermination peuvent faire des miracles et changer les gens. Je crois que beaucoup de gens se sous-estiment dans ce genre de situation-là, justement parce C'est qu'ils beau. En ont jamais vécu. »
C'est beau.
Caro, merci beaucoup du partage. Ça
merci.
A touché beaucoup de gens.
C'est incroyable.
Il y a eu énormément de réactions.
On a eu beaucoup de témoignages de parents qui ont des enfants avec le TSA. Beaucoup de gens qui te remercient d'avoir pris la peine de prendre une voix pour Édouard, d'expliquer, de mettre des mots sur les mots, justement, mm-hmm. de certains parents.
Oui.
Et que c'est vraiment beau ce qui rentre.
Bien, ça me fait plaisir. Si mon partage peut aider simplement quelques parents, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la différence.
C'est beau, ça.
Oui.
Je disais tantôt qu'on ne faisait pas une job importante, mais quand on a des témoignages comme ceux-là, je trouve qu'on a une utilité pas mal plus que de chialer sur le troisième lien. merci, Caro. Merci beaucoup du fond du cœur.
Merci.
Il est à 17h22, 418-971-1021. Vous êtes déjà nombreux à réagir, mais gênez-vous pas de le faire. Vous pouvez passer par le Twitch également, twitch.tv. La chaîne BLVD, barre en dessous FM. On s'arrête pas longtemps, puis on revient.
Pour joindre l'équipe de Gravel.